France Inter.
Le journal Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. La sécurité est-elle compatible avec les libertés publiques? Question cruciale pour les JO. À Saint-Denis, certains s'inquiètent des moyens de surveillance. Ils reviennent du front déboussolés, grièvement blessés. Rencontre émouvante dans ce journal avec un soldat ukrainien amputé que son pays a du mal à regarder en face. Une tête de liste qui peine à exister, Manon Aubry d'LFI était en meeting à Grenoble hier soir. Des victimes qui défendent les accusés. Scène surréaliste au procès de la secte de la Grande Mutation. Et puis nous irons au cinéma voir Le Tableau Volé, l'incroyable histoire d'une toile d'Egon Schiele.
Et au micro de Sonia De Villers, Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture, dirigeante des éditions Actes Sud et amie proche de l'écrivain Paul Auster, mort tout à l'heure ce matin à l'âge de 77 ans.
France Inter.
Plus vite, plus haut, plus fort, plus sûr aussi. L'enjeu des Jeux Olympiques de Paris est autant sécuritaire que sportif. 45 000 gendarmes et policiers mobilisés, sans compter les 18 000 militaires et la sécurité privée, avec une surveillance vidéo inédite. Mais tout cela sera-t-il encadré? Dans quelle mesure les droits fondamentaux des habitants seront-ils respectés? Plusieurs collectifs et associations se sont retrouvés il y a quelques jours lors d'une réunion publique à Saint-Denis, ville olympique. Reportage d'Ajra Mohamed.
Leur principale inquiétude serait résume en trois lettres, VSA.
VSA, ça veut dire vidéosurveillance algorithmique.
Noémie Levin est juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des libertés numériques.
C'est un logiciel qui est ajouté au flux de caméras de vidéosurveillance pour analyser les images et repérer certains comportements dits suspects ou anormaux, mais qui sont en réalité des choses très banales, comme marcher à contresens, comme un groupe qui se forme, comme être à terre. Il y a un risque évidemment de fichage généralisé et de surveillance généralisée.
Une surveillance abusive, c'est ce que pense également Alexandre Schoen, membre du comité Vigilance JO Saint-Denis 2024 et de la Ligue des droits de l'homme. Tout cela pourrait, selon lui, amener à des interpellations, elles aussi abusives.
On craint véritablement une surenchère sécuritaire et répressive, avec bien sûr des risques d'arrestation arbitraire pendant les Jeux Olympiques. Avec l'idée qu'on a toute une structure d'équipement et d'infrastructures comme les caméras qui soutiennent et qui corroborent quand ça va et qui peuvent être passées sous le tapis au moment où ça dessert plutôt les forces de l'ordre, au détriment des libertés fondamentales.
Avec le risque de créer des tensions supplémentaires pendant les JO dans un territoire où les relations entre la police et la population ne sont pas toujours apaisées.
Un reportage à Ajra Mohamed. Et à 86 jours du début des Jeux, deux ordinateurs d'une responsable de l'organisation des Jeux à Lille ont été volés dans une voiture. Selon une source policière, ces ordinateurs étaient susceptibles de contenir des plans de sécurité des infrastructures du village olympique de Villeneuve-d'Ascq. C'est grâce à son admiration pour un joueur de baseball qu'il avait commencé à écrire. Le romancier américain Paul Auster s'est éteint des suites d'un cancer chez lui à New York. Cette ville qui l'avait tant inspiré, il avait 77 ans. On y reviendra sur son parcours, sur le parcours du plus francophile des écrivains américains à 7h50 avec Françoise Nyssen, invitée de Sonia De Villers.
Il est 7h33, des frappes russes cette nuit sur la ville d'Odessa.
Il y aurait 3 morts et 3 blessés. La Russie pousse son avantage à la faveur du printemps. Sur le front, les Ukrainiens mobilisés sont épuisés psychologiquement et parfois grièvement blessés. On croise d'ailleurs partout dans les rues du pays d'anciens soldats amputés, portant des prothèses ou bien se déplaçant en fauteuil roulant. Mais l'Ukraine est-elle prête à faire face à tant d'handicapés de guerre? Pas sûr. C'est un reportage dans la région de Kiev d'Agathe Mahué et de Yachar Vasilov.
Oleksandr Popik a toujours ses deux jambes, mais elles ne répondent plus depuis un an et demi. Dans son fauteuil roulant, chez lui, il raconte Bakhmout dès le début de la guerre. En octobre 2022, il est atteint par le tir d'un char.
Ça m'a fait un trou de 17 cm dans la colonne. La moelle épinière est touchée.
Le diagnostic est clair.
On m'a dit que je ne marcherai plus jamais.
Oleksandr soudain se tord de douleur en silence. Il enfonce très fort sa main dans sa cuisse. C'est normal, dit-il. C'est tout le temps comme ça.
J'ai des spasmes, des crampes en permanence.
Pour calmer ses souffrances, il lui faudrait un neurostimulateur, mais cela coûte 17 000 euros.
Et l'État s'en fout, je dois trouver cette somme moi-même.
Oleksandr bataille déjà pour toucher sa pension d'invalidité et réaménager sa maison. Une rampe d'accès pour son fauteuil. La salle de bain, c'est son épouse et ses amis qui l'ont refaite. Supprimer le bac de douche, surélever le lavabo.
On a payé tout ça de notre poche. L'État, quand tu es au front, a besoin de toi. Mais si tu en sors handicapé, plus personne ne s'occupe de toi.
Pour lui, l'Ukraine n'est pas prête face à ce défi-là. Mais si c'était à refaire, il y retournerait. Mettez-moi des chenilles sur mon fauteuil, dit-il, et je repars à l'assaut.
Reportage signé Agathe Mahuet et Yachar Fazilov. Aux États-Unis, l'Université de Columbia évacué par la police cette nuit, qui y restera jusqu'au 17 mai. Elle était devenue l'épicentre de la contestation pro-palestinienne, un mouvement qui touche aussi la France. Des manifestations à Sciences Po Lyon, Rennes après Paris, à la Sorbonne ou encore à l'Université de Saint-Étienne. Un 1er mai en ordre dispersé et qui va contraster avec celui de l'an dernier. Jusqu'à 150 000 manifestants dans toute la France, d'après les prévisions du ministère de l'Intérieur, contre 800 000 l'an dernier. On était alors en pleine réforme des retraites. Pas de défilé commun des grandes centrales et des revendications qui vont des salaires à une Europe plus protectrice en passant par la paix au Proche-Orient. Il y aura sans doute des profs dans les cortèges, d'autant que l'éducation nationale est priée de faire 700 millions d'euros d'économies dans le cadre des restrictions budgétaires. Les heures supplémentaires des professeurs ne seront plus payées jusqu'à la fin de l'année. Sylvie Perron, représentante des personnels de direction au syndicat SGEN CFDT, détaille les conséquences.
Alors avec ces heures supplémentaires, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des entraînements, par exemple, aux examens. Il peut y avoir des projets pédagogiques, des ateliers qui ateliers scientifiques, qui ateliers mathématiques, qui ateliers artistiques, qui permettent aux jeunes gens d'entrer dans les apprentissages de manière différente que le cours classique et traditionnel de l'enseignant. Cette décision implique l'arrêt brutal de tout projet, y compris des projets en cours de réalisation. L'année scolaire ne s'arrêtant pas le 1er mai. Dans les établissements scolaires, on se projette sur du 1er septembre au 30 juin, voire même maintenant bien plus loin jusqu'au 5 juillet avec les enseignants, et on accompagne les élèves de bout en bout. Et évidemment que si au mois de mai on apprend brutalement que ce qu'on avait prévu ne peut pas se poursuivre, vous imaginez bien que les enseignants vont avoir du mal à s'engager dans des projets. Il n'y a rien de pire que d'avoir une projection annuelle et de l'avoir s'arrêter en cours de réalisation.
Sylvie Perron interrogée par Sonia Princey. Un 1er mai mobilisateur aussi en vue des élections européennes. Le RN en meeting à Perpignan présentera sa liste autour de Jordan Bardella. À gauche, Manon Aubry était à Grenoble hier soir, la tête de liste de la France Insoumise, dépassée par la personnalité de la franco-palestinienne Rima Hassan et qui peine à exister, Claire Flochel.
Une salle surchauffée, plusieurs élus se succèdent sur scène et axent clairement leur discours sur leur soutien à Gaza. Ici la députée LFI de l'Isère, Elisa Martin.
Palestine vivra et soyons clairs, c'est un enjeu de cette campagne.
Rima Hassan est dans toutes les bouches, dans celle aussi de Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée qui arrive telle une star, ovationnée par le public.
C'est un immense bonheur pour moi d'être ce soir à Grenoble. D'abord parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'était le jour où, avec Rima Hassan, nous étions convoqués pour apologie du terrorisme. Et je tiens à dire que nous ne nous tairons pas.
Pas facile d'exister pour la tête de liste Manon Aubry, tout de même très applaudie. L'actualité, ce n'est pas elle qui l'a fait, se défend-elle.
De média en média, on nous demande, mais vous ne parlez que de Gaza dans cette campagne. Alors, pardon, c'est pas nous qui avons fait le choix qu'un peuple se fasse massacrer dans la bande de Gaza.
Elle attaque aussi ses adversaires, François-Xavier Bellamy ou Raphaël Glucksmann, et surtout le chef de l'État.
Emmanuel Macron, ça me fait un peu penser à l'arnaqueur sur Tinder. Le mec qui fait des belles promesses, et une fois qu'il a ce qu'il veut, il disparaît. Alors le 9 juin, vous pouvez faire un truc, swipe left, passer au suivant.
Une campagne LFI marquée par son opposition à l'action nationale d'Emmanuel Macron et à la guerre à Gaza et qui laisse très peu de place pour les enjeux du Parlement européen.
Et chez Renaissance, une bonne partie du gouvernement et des chefs de la majorité ont participé hier soir au premier comité politique de la campagne autour de Gabriel Attal et de Valérie Ayer, la tête de liste à la peine dans les sondages. Des victimes qui contestent leur statut, c'est assez rare. 6 cadres de la grande mutation à mouvement sectaire sont jugés en ce moment en correctionnel à Paris, mais certains adeptes réfutent leur statut. Ils sont venus dire tout le bien qu'ils pensent de ce mouvement mené par un gourou sauveur qui affirmait avoir parcouru 22 planètes. Charlotte Piré.
C'est un procès aux frontières poreuses. Il y a par exemple ces prévenus jugés comme cadres du mouvement sectaire et qui, à l'audience, affirment avoir été sous emprise. Et puis il y en a d'autres que le parquet a rangés parmi les victimes de la grande mutation, ce que certaines ont vécu.
Comme une humiliation,
une injustice et puis d'avoir l'impression d'être instrumentalisé et de servir de prétexte à un procès une incompréhension.
C'est le cas de Pauline et Elisabeth, 45 et 60 ans, qui ont rejoint ce qu'elles qualifient de mouvement de pensée.
Si je n'ai pas le droit d'étudier, certes, peut-être dans un mouvement un peu atypique, et effectivement, ça peut paraître un peu farfelu pour certains, mais je ne vois pas où sont les preuves de l'emprise, puisque moi, je n'en ai tiré que de grandes joies. Et c'était un enseignement qui était riche. Et on est marqué au fer rouge.
Alors hier, elles ont tenté de convaincre que la grande mutation n'était pas un mouvement sectaire qui les aurait assujettis.
Nous avons cette étiquette de personnes sous emprise. Sauf que je suis désolée, quand je vais chez le boulanger, je ne deviens pas boulangère. Quand je vais chez le maraîcher, je ne deviens pas maraîchère. Donc j'ai le droit d'aller où je veux, de dire ce que je veux dans la mesure où je ne nuis à personne.
Reste désormais au parquet de démontrer dans son réquisitoire ce qu'il qualifie d'abus de faiblesse par l'équipe de la grande mutation.
Récit d'audio. Signé Charlotte Piret. Le tableau volé, c'est le titre d'un film qui sort ce mercredi dans les salles. L'incroyable histoire d'une toile d'Egon Schiele, spoliée par les nazis pendant la guerre, retrouvée 60 ans plus tard et vendue aux enchères en 2006 pour la somme de 17 millions d'euros. Les tournesols fanés qui ont inspiré Pascal Bonitzer. Une satire sociale aussi avec Alex Lutz et Léa Drucker qui met en scène deux mondes que tout oppose, Corinne Pellissier.
Le garçon est ouvrier chimiste.
Ouais, c'est presque un gosse. Ils sont morts de trouille.
Bonjour.
Absolument rien au départ ne prédestiné. André Masson, Alex Lutz et son ex-femme Léa Drucker a foulé le sol de la maison d'un ouvrier chimiste dans la banlieue de Mulhouse. Pour ce commissaire priseur chez Scotties, c'était plutôt jusqu'ici les salons Louis XV de ses riches clientes parisiennes. Une vie de luxe et de succès à Drouot, à des années-lumière du parcours de ce curieux client, prétendant posséder un tableau original du peintre Egon Schiele, coup magistral s'il s'avérait être un vrai pour la carrière de notre spécialiste en art moderne.
On le croyait détruit, il a disparu. En 1939.
L'occasion d'une plongée dans l'univers sans état d'âme du marché de l'art, le sens du bonheur, de l'argent, de la réussite, avec des comédiens qui sonnent juste.
Le tableau va très mal se vendre, il ne faut pas qu'il aille aux enchères.
Cette vente ne doit pas nous échapper.
L'occasion surtout de raconter l'histoire extraordinaire de ce tableau, peint en 1914, inspiré de Van Gogh et de ses tournesols, spolié par les nazis pendant la guerre, retrouvé au mur d'une maison achetée en viager par une famille modeste, et finalement vendu aux enchères en 2006, au profit des héritiers du collectionneur autrichien Karl Grunewald. On peut aujourd'hui en acheter une reproduction sur papier, encadrée pour trois fois rien. À l'époque de sa vente, il avait rapporté plus de 17 millions d'euros.
Voilà, ça s'appelle Le Tableau Volé. C'est signé Pascal Bonitzer.
Christelle Rebière, merci. À suivre Yaël Gauss, Dominique Seux et Sonia De Villers.